Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce soir, nous allons parler, poursuivre notre échange sur la deuxième béatitude. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la douceur. Nous avons abordé un tout petit peu le deuxième élément de la béatitude, c'est-à-dire la terre en héritage. Et vous avez parlé aussi de la colère, des éléments de colère et de la vengeance, je dis bien. Vous dites au sujet de la vengeance que vous associez à une justice extérieure par opposition à la justice intérieure, qu'elle est un pauvre plaisir temporaire. Là, je pense que vous frappez un point névralgique de la psychologie humaine, que c'est une affirmation difficile à accepter parce qu'elle touche nos instincts, nos viscères, parce que bien beaucoup plus que notre intelligence ou que notre rationalité. Est-ce que vous êtes d'accord?
Absolument, parce que la béatitude de douceur, peut-être plus que d'autres, là, mais sans vouloir minimiser d'autres, c'est au fond une conversion, pas seulement dans notre intelligence, comme Saint Paul appelle ça la révolution de notre jugement à cause de la hiérarchie des valeurs, mais aussi une conversion de notre affectivité et de notre psychomotricité. Parce qu'au fond, au lieu de donner une claque à un autre, au lieu d'essayer de toujours prendre, on va essayer de donner, on va essayer de construire au lieu de détruire. Alors c'est une conversion qu'on pourrait dire aussi comme en pédagogie, qui est psychomotrice aussi. Alors c'est une conversion de tout l'être, c'est bien certain.
Je me rends compte à mesure qu'on en parle, là, à mesure que nous faisons le tour de la question, que la douceur, toujours au sens de la béatitude, au fond, ça peut constituer un remède formidable contre le stress. Je veux dire que ça peut avoir une incidence réelle sur notre santé physique, non seulement notre vie spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord sur la santé physique, le corps?
Absolument. D'ailleurs, l'idéal grec, c'était mens sana in corpore sano,
Oui.
c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. C'est évident que le spirituel chrétien, c'est une conversion de tout l'homme dans son entier, dans son entité, autant spirituelle, autant corporelle. Puisque le spirituel chrétien, c'est la construction du corps mystique du Christ, ce n'est pas une vie intérieure qui serait séparée de l'extérieur, comme par exemple un jour on a trouvé un moine bouddhiste japonais qui la nuit tuait du monde à coups d'hache, puis le jour était en intense prière. Alors ça, c'est la séparation parfaite. À ce moment-là, c'est un échec complet. C'est la séparation parfaite de l'esprit et du corps. Alors c'est certainement pas ça la béatitude. C'est même un bonheur social, comme on l'a vu dans Luc. Alors c'est la béatitude de tout dans l'homme, comme on pourrait dire des fois, des orteils aux oreilles. Alors c'est une conversion, un revirement complet. Et ce qui permet ce revirement-là, c'est évidemment la thérapie d'abord qui agit intérieurement, c'est-à-dire sur l'âme. Ce n'est pas le fruit d'une psychologie behavioriste, c'est une psychologie d'intériorité d'abord qui convertit l'âme et qui ensuite fait que des attitudes étant changées, les mentalités peuvent s'en suivre et des comportements nouveaux apparaissent et finalement des actions puis des relations nouvelles. Alors c'est évident que c'est tout l'homme.
Et finalement, on se sent mieux dans son corps.
Absolument, et c'est même une source de santé physique.
D'accord. La notion de conversion, qui est essentielle dans la béatitude, suppose nécessairement une capacité de pardon. Non seulement le pardon qu'on offre aux autres, mais aussi la capacité d'accueillir celui qui nous est accordé par Dieu et par les autres aussi. À ce sujet-là, vous écrivez: Tu seras sauvé, converti par ceux qui t'auront aimé, malgré que tu les aies fait souffrir. Alors notre conversion peut donc nous être donnée, elle peut provenir de sources bien inattendues parfois et peut-être de ces mêmes personnes qu'on a fait souffrir.
Oui, des personnes qui sont restées bonnes malgré les souffrances qu'on leur faisait. D'ailleurs, on est un peu fou comme ça. On le verra surtout dans la béatitude de miséricordieux. Les êtres qu'on fait le plus souffrir, c'est ceux qu'on aime le plus. Parce qu'avec les étrangers, on se fait chromer, on prend attention. On a un personnage artificiel qui a l'air bien beau. C'est un sourire commercial et le reste, on fait ce qu'on peut.
Parce qu'on est très gauche dans nos façons d'aimer aussi.
Ben, à ce moment-là, on fait une sorte d'actage, c'est-à-dire qu'on joue un personnage pour réussir dans la société, on joue un personnage et au fond, on cultive un personnage qui, quand il arrive à la maison, ben, il est obligé d'être lui-même, puis là, ça peut être l'inverse, puis là, il n'est pas vivable, puis il n'est pas endurable. Mais évidemment, alors, à ce moment-là, vu que c'est avec les personnes aimées qu'on peut se laisser aller le plus, puisqu'ils nous le permettent, ben, c'est eux autres qui vont manger les coups. Et on étudiera ça davantage dans le mystère de la miséricorde. Mais déjà, on voit que cette béatitude des doux est un mystère de miséricorde. Alors, comment expliquer ça? Ben, nous venons au monde physiquement dans un autre. Comme moi, par exemple, quand je suis venu au monde, je suis tombé en bas de ma mère, là, bon, on vient au monde dans un autre physiquement. On vient au monde psychologiquement aussi dans un autre, dans un être qui nous aime, qui nous regarde, et on vient amoureux surtout et guéri dans un être qui nous accepte même dans nos blessures et qui nous en fait pas de reproche, qui nous accepte inconditionnellement. Donc, le pardon qu'on peut donner, c'est celui qu'on a d'abord reçu.
D'accord. Alors, donc, après avoir un petit peu compris ce que c'est que la douceur, parce qu'on commence à en avoir parlé un petit peu, je suppose aussi qu'il faut connaître les moyens de l'acquérir. Est-ce qu'il existe des recettes, des façons de devenir doux, des moyens d'apprendre la douceur?
Oui. Là, nous entrons dans le creux du processus. Et je voudrais qu'on aille lentement. Parce que là, c'est une sorte d'accouchement. Parce que quand Jésus a dit, dans la finale de Matthieu, « Allez enseigner le monde entier », c'est-à-dire « didasken » en grec, la didaskalie, didasken, l'enseignement, il a parlé aussi de « faites-en des disciples ». Là, le terme grec, c'est « matetesen », ça veut dire « accoucher ». Alors, c'est certain que dans l'amour, on se réaccouche réciproquement, continuellement. Alors, les moyens.
C'est une renaissance, c'est ça que vous dites?
C'est une renaissance qui vient d'une co-naissance. On est ensemble là-dedans. On n'est pas séparés. De même qu'on vient au monde par un couple, on forme un couple cette renaissance. Et le couple du thérapeute et du client, ou si on veut, des deux amoureux qui se pardonnent et qui se retrouvent, c'est le fond du cœur humain, c'est le fond du cœur de Dieu, et c'est ce qu'il y a de plus profond dans nous. Et la volonté divine, ce qu'elle veut surtout, c'est qu'on se pardonne, parce que si on ne se pardonne pas, tout est fini. Alors, le pardon, c'est ce qui fait qu'une relation dure. Sans ça, c'est des relations de fin de semaine. Moi, j'appelle ça des relations Kleenex, des relations mouchoirs, c'est rien qu'en superficie. Puis on rencontre pas trop l'autre pour pas se blesser. Comme ça, on pourra se rencontrer tout le temps. Mais c'est des rencontres de surface, c'est des rencontres à fleur de peau. Mais une rencontre de cœur à cœur, c'est une rencontre à cœur ouvert. Et quand le cœur est ouvert, on trouve des choses dedans qui, des fois, on pensait qu'elles n'existaient pas, mais on les accepte. Et comme ça, on convertit la partie négative en positive. Ce qui était le trait négatif devient positif, comme dans la croix du Christ. Sans disparaître, il devient une force d'aimer et d'aller plus loin.
Le pardon, je l'entrevois aussi comme essentiel dans le sens... Ou quand une personne décède, juste avant de décéder, on entend souvent les gens dire « Oui, mais il faut que je sois en paix avec telle personne. Il faut avoir donné, accepté, échangé une espèce de pardon, comme si c'était la seule façon de mettre un point final. »
Oui, pour mourir en paix et détendu, il faut être pardonné. Alors, la meilleure façon d'aider quelqu'un à mourir, c'est de tenir la main en lui montrant qu'on l'aime. Parce que là, peut arriver en lui toutes les culpabilités. C'est dans ce temps-là, des fois, qu'on se rappelle tout ce qui est de travers. Mais là, justement, c'est le dernier pas pour être guéri. Alors, aider quelqu'un à mourir, c'est la plus haute fonction.
Monsieur Truchon, au sujet des façons de faire l'expérience de la douceur, vous en citez une qui est du prophète Daniel. « Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. » Ça me paraît naturel de devoir s'abaisser devant Dieu, mais je constate aussi que dans cette affirmation, Dieu ne demande à personne de renoncer à sa propre grandeur ou à sa propre puissance au plan humain. Est-ce que très souvent, au contraire, on n'a pas l'impression que Dieu exige ce genre de renoncement?
Oui, des fois, on est mêlé là-dedans. Par exemple, quel est un signe de la vraie humilité? C'est de baisser la tête peut-être d'abord, mais de la relever ensuite. Et celui qui la laisse baisser, c'est une fausse humilité. Comme l'orgueilleux. L'orgueilleux, par exemple, c'est un gars, ça, qui va faire semblant qu'il est humble. Il va dire j'ai bien des défauts, mais dis pas toi que c'est lui qui les a, parce que là il va être bien fâché. Faut que ça soit lui qui dise ça. Alors au fond c'est une manigance, c'est un saut d'habileté. Alors il dit au fond qu'il est petit puis qu'il est pauvre, mais c'est pour que tu lui dises qu'il est grand. Alors ça c'est pas le vrai humble. Puis ensuite il y a le faux, l'orgueilleux le plus stupide, lui il va dire je suis fort. Ça c'est évident. Il coupe toutes les relations avec ce monde-là. Il va se retrouver tout seul dans le bois lui-là. Alors, la vraie humilité, c'est évident, c'est de retrouver sa vraie grandeur, mais on retrouve le plus notre grandeur, c'est quand on trouve la grandeur de Dieu. Alors, à ce moment-là, on peut pas se trouver gros à côté d'un marin, on peut pas se trouver gros à côté d'une grosse montagne, on peut se trouver gros rien qu'à côté d'un maringouin. Alors, l'orgueil des gens qui au fond ne savent même pas qu'ils sont orgueilleux, c'est qu'ils s'isolent dans leur, comment je dirais, ils s'isolent dans leur grandeur. Et il parle à personne pour jamais la perdre. Puis il se compare pas, il voit toujours plus grand que les autres. Mais à chaque fois qu'arrive un plus grand qu'eux, ben là, encore la chirurgie retombe à terre. Alors, tandis que le vrai homme, c'est celui qui n'a comme demeure que le ciel et comme terrain pour ses pieds que la terre et pas n'importe quelle terre pour tout ça. Donc, Dieu veut notre dignité. Il veut, au contraire, nous la redonner. Il veut nous en faire découvrir une plus grande. Mais là, j'attaquerai l'histoire des moyens.
Bon, d'accord. Mais quand vous dites, là, excusez-moi, vous interrompre. Quand vous dites l'humble, vous voulez dire aussi le doux.
Ça va ensemble, qu'en hébreu, c'est le même radical. L'humilité, c'est une attitude, et puis la douceur, c'est un comportement. L'attitude est requise pour le comportement. Parce que celui qui se pense fort et qui veut démontrer sa force, justement, écrase.
Il est faible, au fond.
Au fond, il n'est pas convaincu de sa force.
C'est lui le faible.
C'est lui le faible. Là, je me rappelle d'un gars qui était bien fort, et quand j'avais 7 ans, qui avait le dos large comme une armoire, et moi, je claquais dessus, et il était capable d'ouvrir une bouteille de liqueur avec son pouce, il montrait son Harley Davidson au deuxième étage. Ce gars-là se fâchait jamais. Il n'avait pas besoin de se fâcher.
Alors, allons-y donc pour les moyens.
Bon, les moyens. D'abord, les principes. Avoir des principes clairs. Par exemple, à un moment donné, on a vu le Dalaï Lama, le 14e Dalaï Lama, embrasser Jean-Paul II. Puis là, Jean-Paul II l'a embrassé, puis les deux se sont embrassés. Moi, j'ai tellement aimé ça, parce que c'est deux non-violents. C'est deux non-violents. Il y en a un qui a reçu une balle près du cœur, près du poumon. Il a été pardonné à son bourreau. L'autre, le Dalaï Lama, ben, il a quand même eu le prix Nobel pour la paix, parce qu'il a combattu pour son peuple. Alors, ce sont deux non-violents. Parce que n'oublions pas que cette béatitude des doux, c'est une béatitude du non-violent. Alors, le non-violent, c'est pas un innocent, c'est pas un stupide, c'est pas un faible, c'est un fort. Seulement, il veut aider l'autre à se construire, il veut pas le détruire. Au fond, c'est un médecin, il veut pas tuer le malade, c'est le premier principe de la médecine. Alors, regardons pour le fun ces deux hommes qui sont le Dalaï Lama, sans vouloir les comparer pour dire l'un est moins bon, l'autre est plus grand. Pas du tout, parce que quand Jean-Paul II a embrassé le Dalaï Lama, il n'a pas essayé de le convertir. Alors, les deux ont une vocation authentique. Alors, quand j'ai passé un été à étudier les enseignements du Dalaï Lama, voyons les 8 principes qui peuvent nous rendre malheureux et qui pourtant sont bien naturels. Je vais les citer doucement.
D'accord.
Ensuite, on verra les 8 béatitudes, comment c'est différent. Alors, premièrement, les 8 principes de ce monde. 1, amour de la louange. C'est évident que tout homme aime la louange. 2e principe, le rejet du blâme. C'est évident qu'on n'aime pas être blâmé. 3, le désir du gain. C'est évident qu'on aime profiter, puis grossir, puis avoir de l'argent, puis tout ça. 4e, la crainte de la perte. C'est évident qu'on n'aime pas ça perdre. 5e, le goût du confort. Et du luxe. Ben, qui n'a pas ce goût-là, franchement, à moins d'être malade?
Surtout après y avoir goûté.
C'est ça. 6e, la crainte de l'inconfort et de la pauvreté. Ben, je comprends. 7e, accueil à tout ce qui est plaisant. Ben, je comprends. On aime mieux aller aux noces qu'aller au deuil. Le rejet de ce qui est douloureux, c'est évident. Bon, alors...
Tous des principes d'instinct humain,
d'instinct naturel. Absolument. Quelqu'un qui n'est pas comme ça, il n'est pas correct. Seulement que, quand arrive Dieu... Dans nos peines, dans nos injustices, dans nos malheurs, il nous amène à découvrir 8 autres principes qui sont bien différents et qui guérissent ceux-là, parce que le tort de ces 8 principes que je viens de dire, c'est pas d'être faux, ils sont vrais. C'est des orientations vraies de l'instinct. Mais quand est-ce qu'ils font notre malheur? C'est quand on les prend pour des absolus.
C'est ça, quand on les pousse à l'excès.
Quand on les prend comme des buts, ça ne marche pas. Par exemple, on pourrait l'amour de la louange. Quelqu'un qui fait le but de sa vie d'être louangé, il est fini. On va le manipuler, c'est terrible. Mm-hmm. Il est fini.
C'est vrai.
Et puis, il n'y arrivera pas. Et alors, il va falloir qu'il ne soit pas lui-même. Le rejet du blâme. Celui qui rejette un blâme ne pourra jamais avancer. Parce qu'on est en train de faire une critique positive, peut-être, de lui. Alors, il n'avancera pas. Alors, le désir du gain. Mais il faut savoir perdre aussi. Tu ne peux pas gagner tout le temps. La crainte de la perte. Ben, écoute, c'est le premier principe de la finance. Il faut prendre attention à ça. Mais au moment donné, tu vas perdre. Le goût du confort et du luxe. Ben, si tu refuses toujours la souffrance, il y a quelque chose. Tu n'iras même pas chez le dentiste. La crainte de l'inconfort et de la pauvreté, c'est que justement, c'est ça qui crée les mauvais riches, c'est-à-dire ceux qui accumulent des richesses. Parce que c'est l'écureuil ramasse bien une poche de noisettes pour l'hiver, mais pas quatre quand même. Mm-hmm. Alors tandis que l'homme, lui, étant tellement insécure, il va penser qu'en accumulant l'argent, il va éliminer toutes les misères de sa vie, puis la mort, il l'éliminera pas. Alors, c'est parce que c'est un défaut de son esprit, une désorientation de son esprit. Alors, si l'homme accumule tant de biens, c'est qu'un autre va en manquer, c'est évident. Alors, accueil à tout ce qui est plaisant. Ben attention, il y a des choses. C'est quand quelqu'un décide de devenir champion, il s'offre des efforts. C'est pas toujours très plaisant, mais il fait pareil. Alors, il y a une ascèse mystique là-dedans. Et le rejet de ce qui est douloureux. Alors, qu'est-ce que les béatitudes?
Qu'est-ce que les béatitudes viennent faire là-dedans?
Ah, c'est la merveille. C'est que les béatitudes viennent guérir ses instincts. Comme si t'aimes un chien, il va même risquer sa vie pour te sauver. Ça, c'est plus que son instinct.
Est-ce que le sage dont vous parlez, est-ce qu'il a annoncé des principes équivalents en échange de ses faiblesses humaines?
Non.
Mais je suis sûr qu'il doit le faire autrement.
C'est des faiblesses, oui, puis non. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le malheur, nos malheurs viennent de l'ignorance et ils viennent de la culture de nos désirs. Mais justement, ces huit principes-là, au fond, c'est des désirs. Mais le bouddhiste essaie d'éteindre ces désirs-là en disant qu'au fond, ils n'ont pas d'avenir. Mais les béatitudes, il faut cultiver nos désirs, les faire grandir, les orienter et les transformer.
Alors, le Dalai Lama, lui, il essaie de les apprivoiser davantage?
Il essaie... Là, je ne voudrais pas trop creuser parce que c'est un homme pacifié. Mais il ne croit plus au bonheur, au plaisir humain, tout, même s'il en profite. Il ne met pas son bonheur là. Autrement dit, ces instincts-là, pour lui, n'ont pas d'avenir.
Je pense que vous aimeriez revenir un petit peu sur l'enseignement du Dalai Lama. Et je vais vous laisser porter là-dessus, M. Truchon.
Oui, c'est que le Dalai Lama, d'abord, c'est un personnage qui me fascine par sa paix. Puis j'ai passé un été à étudier ses enseignements, là. Et c'est quoi qui me fascine là-dedans, là? C'est quoi qui m'a travaillé là-dedans? Ben, je dirais, là, que, en un certain sens, l'enseignement du Dalai Lama m'a aidé à comprendre mieux les béatitudes. Alors, c'est qu'au fond, nous autres en théologie, nous avons une théologie positive, on fait de l'enseignement, on a un savoir, on enseigne, c'est bien beau ça, mais on oublie souvent, ou on laisse passer, ou on le dit passer, qu'il y a un mystère là-dedans. Il y a une théologie négative, c'est-à-dire que...
Au fond, il y a des choses qu'il faut accepter comme incompréhensibles.
Qui nous dépassent et qu'on verra plus tard, après la mort. Alors justement, le Dalai Lama, c'est quelqu'un au moins qui ne croit plus au Père Noël. Lui, là, le bonheur d'avoir un gros char, le bonheur de ci, le bonheur de ça, il aime bien ça, un bon char, tout ça, il aime ça, mais c'est, il sait bien que c'est le bonheur, il n'est pas là-dedans. Alors, au contraire, lui, il sait que le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est de dépasser complètement tout ce que le monde nous offre. Et la manière de le dépasser, ben, de dire le bonheur, c'est pas ça. Alors, un fou, un bouddhiste, passe son temps à se dire le bonheur, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça.
Il procède par la négative.
Absolument. Et moi, j'appellerais ça la théologie négative. C'est-à-dire, de Dieu, au fond, on en sait bien moins, on en sait bien moins qu'on pense de Dieu. On en parle. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Bien sûr qu'on sait des choses par Jésus-Christ, mais le mystère de l'infini, il reste. Hein. Seul Jésus connaît le Père et à qui il a voulu le révéler. Et bien, ça, bien sûr, il le révèle aux plus petits, mais justement, les plus petits, c'est ceux qui découvrent les béatitudes.
Vous écrivez que choisir l'amour, c'est la même chose qu'être doux. Mais M. Truchon, la majorité des gens normaux ne veulent que ça, choisir l'amour. Mais on a souvent l'impression que bien des gens, par contre, ils sont pas tout à fait des doux comme on en parle. Pourquoi la contradiction?
Parce qu'on ne sait pas le bon, puis on connaît mal le bien, puis on est mêlé, puis c'est certain que... Moi, ce que j'espère, c'est qu'à la mort, tous choisiront Dieu. Parce que devant Dieu, en vérité, comment faire ne pas le choisir? Pour moi, ça m'apparaît un mystère terrible qu'on a... comment faire pour ne pas choisir Dieu? Mais on combat des images fausses, on vit des cheminements tortueux, et des fois même, on s'attache à notre mal. Et là, j'aimerais dire des choses à propos des... Tantôt, je parlais de connaître les principes de l'amour, qui sont les béatitudes. Je parlais des 8 principes de ce monde que le Dalai Lama enseigne comme n'étant pas le vrai bonheur, parce que ce sont des chemins, mais pas des buts, mais que le malheur nous arrive quand on prend des buts. J'aimerais qu'on reprenne, là, les lois de l'Esprit-Saint.
Allons-y.
Oui. Les règles de l'Esprit. D'abord, c'est d'être attentif. D'être attentif à ce qui se passe. Parce que le bonheur, au fond, c'est une prise de conscience. Donc, il faut être conscient. Le bonheur, c'est pas dans les orteils, c'est pas dans les oreilles, c'est d'abord dans la conscience. Alors, être attentif.
Deuxièmement, on ne peut pas être heureux sans le savoir.
Voilà. Deuxièmement, le respect. Le respect, c'est-à-dire ça, d'être capable de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas les déformer, soit par nos agirs, soit par nos connaissances, mais d'être toujours plutôt attentif à connaître, plutôt que... qu'à maîtriser dans le sens de faire ce qu'on veut avec n'importe quoi. Troisièmement, la dignité, c'est-à-dire que, au fond, de rencontrer chaque être humain comme quelqu'un qui a une grande valeur. Ensuite, j'appellerais ça la verticale, c'est-à-dire se tenir debout. Il reste que notre instinct, le plus grand, c'est l'instinct de connaissance, l'instinct de la vérité. Alors, nos organes dans le bas, en bas de la tête, sont quand même moins importants, même si on a besoin pour se reproduire, sont quand même moins importants que les organes supérieurs, comme le cerveau et le reste. La respiration. Ben, respirer, c'est déjà commencer à vivre un peu de douceur que de prendre notre temps de respirer. Le rythme, ben, il y a un temps pour chaque chose, mais pour ça, il faut être détaché, alors il faut se détacher. Mais comment est-ce qu'on fait pour se détacher? Il faut s'attacher à ce qui a de la valeur, à ce qui demeure. La détente, apprendre à se détendre aujourd'hui, c'est capital. Les gens sont stressés, sont tout poignés. Alors, puis se démêler. Alors aujourd'hui, on dirait que les gens sont mêlés et tendus, donc se détendre, se démêler, donc étudier, prier, méditer, s'instruire, c'est capital. Ça, ça mène aux fruits de l'esprit. Et quels sont les fruits de l'esprit? La charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la fidélité, la modestie, la continence, la chasteté. La continence, la chasteté. La chasteté, c'est un bonheur terrible. Parce que c'est comme la blancheur qui contient toutes les couleurs. La chasteté contient tous les plaisirs. Pourquoi? Parce que c'est le respect de l'être aimé. La chasteté, c'est de garder une distance entre soi et l'être aimé pour mieux se connaître. Alors, tandis que quand tu te colles la bouche sur une vitre pour mieux voir, c'est de la buée qui apparaît, tu vois plus rien. La chasteté, c'est une distance entre deux êtres pour se voir clairement. La prophétie, c'est-à-dire se dire des vérités, la foi, avoir confiance, le service, l'enseignement, l'exhortation, savoir s'encourager, donner sans calcul, d'aimer vraiment l'autre. Alors, ce sont tous des ministères, ce qu'on a à exercer. Et là, je dirais une phrase capitale. La loi de l'esprit qui habite l'âme, qui habite dans l'âme, c'est non seulement nous enseigner ce qu'il faut faire, en éclairant l'intelligence sur les actes à accomplir, mais encore incline à agir avec rectitude. L'Esprit Saint, c'est la bonté de la loi.
Je pense que ce que vous venez de nous citer, il y en aurait pour plusieurs épisodes à explorer ces thèmes-là. Et je pense qu'on pourrait peut-être même le faire à un moment donné, parce qu'il me paraît y avoir pas mal de matière. Je vais vous lire une citation. « Au lieu de regarder la loi, le livre ou le code, plonge-toi dans les yeux de l'être aimé qui a su te séduire. Lui est ta loi. » Fin de la citation. Ce sont vos paroles, M. Truchon. Comme moyen pour arriver à vivre la béatitude, parce qu'on parle depuis tout à l'heure et au dernier épisode aussi, des moyens de vivre la béatitude, tout à coup, ça me paraît terriblement simple, merveilleusement facile, surtout si l'être aimé, avec un grand E, peut se refléter, s'incarner dans son conjoint, son ami, son chum, des gens dont on sait qu'ils nous aiment. Ça me paraît facile de se nourrir, de faire plaisir à l'être aimé, selon votre expression, surtout s'il y a un mouvement de retour, surtout s'il y a un mouvement de retour, si l'amour est réciproque.
Oui. Au fond, c'est lui le chemin fondamental. C'est que l'amour d'un autre pour nous, nous guérira de nos amours. Qui, en fait, nous font trouver le vrai amour. On étudiera plus, évidemment, encore ça, dans « Bienheureux ceux qui pleurent », qui est la prochaine béatitude.
Oui.
Comme vous pouvez voir, on va de profondeur en profondeur. Mais c'est certain que le secret de tout ça, c'est d'être séduit par quelqu'un qui nous aime, vraiment. Et on ne peut pas faire autrement que de lui rendre l'appareil. Et c'est ça la loi nouvelle, la loi du Christ. C'est de nous aimer les uns les autres. C'est là qu'est un bonheur inouï, qui n'a pas de bout, qui n'a pas de fin, de jour en jour, de matin en matin, de nuit en nuit. On peut vivre dans une paix progressive. Et là, j'aimerais dire 3-4 phrases fondamentales. La première, ce qui libère l'intelligence humaine, c'est la connaissance de l'être aimé. Pas rien que comment circulent les planètes. La deuxième loi qui libère la volonté, c'est l'abandon à l'être aimé, qui nous aime vraiment. La troisième loi qui libère notre corps, c'est l'acte liturgique en offrande pour l'être aimé. Ce qui libère nos sens, c'est la contemplation de la beauté. Donc, entourons-nous de beauté et de l'être aimé, et méditer, c'est sentir l'être aimé constamment.